Je suis en compagnie de Marc Alizard pour Informatique Céleste qui vient de paraître aux éditions PUF dans la collection Perspectives Critiques. Bonsoir Marc Alizard, merci de me recevoir chez vous. Vous écrivez en introduction de votre livre qu'il vise à combler un manque, celui d'une ontologie digitale. Avant d'en arriver à ce concept et de le développer, vous dressez un historique de l'idée d'informatique et sa réalisation. Vous écrivez que l'ordinateur est apparu au pays de l'utilitarisme par Charles Babbage vers 1830, ensuite Alan Turing vers 1930 en Angleterre donc. Quelle est l'invention de Charles Babbage? Vous inscrivez cela dans une rupture épistémologique considérable entre sa machine, la machine à différence, et la calculatrice, c'est-à-dire la pascaline.
Oui, l'invention de l'ordinateur d'abord a lieu en deux temps, effectivement. C'est-à-dire que les ordinateurs modernes, ceux qu'on utilise, sont plutôt des ordinateurs qui dérivent l'invention d'Alan Turing, dans les années 30, 1930. L'ordinateur a un précurseur, enfin cette formule, cette version de l'ordinateur moderne a un précurseur, un ancêtre, qui est totalement mécanique, hein, qui fonctionne avec des roues, des roues dentées. Et qui date d'un siècle plus tôt, et les inventeurs de l'ordinateur moderne rendront hommage tardivement à Charles Babbage, parce que ils réinventeront l'ordinateur sans avoir aucune connaissance en fait de cette première histoire, de cette préhistoire de l'informatique moderne. Moi, elle m'a intéressé parce que d'abord, ne venant pas du milieu de l'informatique, je cherchais un fil conducteur pour comprendre ce qu'il y a dans les entrailles d'une machine et dans les entrailles d'un ordinateur de bureau contemporain, on ne trouvera pas grand-chose. On trouvera des puces en silicium, des conduits électriques. À l'œil nu, finalement, ça reste assez mystérieux ce qui se passe dans une machine. Hein. C'est une sorte de boîte noire. Il y a une anecdote d'ailleurs dans le film sur l'inventeur de l'Apple. Son nom m'échappe à l'instant. Steve Jobs. Il y a sur la biographie de Jobs qui est vachement très très intéressante, hein, puisqu'il a enlevé les vis qui permettaient de défaire un ordinateur pour y mettre ses propres composants. Alors ça fait un scandale dans la communauté des geeks qui n'envisage pas qu'on ne puisse pas tripatouiller dans son ordinateur, mais on est vraiment les enfants de cet ordinateur sans vis, hein, qui est vraiment une pure boîte noire. Alors l'ordinateur de Charles Babbage, c'est vraiment le contraire. C'est de l'huile, à peu près 10 tonnes de ferraille, une manivelle. Et donc c'est beaucoup plus proche de finalement ce qu'un esprit peut verser dans les conduits électriques, peut se représenter. Alors quand on regarde cet ordinateur, on s'aperçoit que lui-même finalement répond à une histoire assez longue en réalité d'invention de machines à calculer. Voilà. On a inventé des machines à calculer très tôt dans l'humanité, en réalité. Hein, les premières, ce sont les bouliers, ou qu'on appelle aussi les abacs. Ce ne sont pas exactement des machines, ce sont plutôt des dispositifs à calculer, puisqu'il n'y a pas d'automatisme qui se produit quand on calcule avec un boulier. Il y a des effets de simplification, les dizaines, les centaines, etc. On peut calculer même très 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 vite. Hein. Les maîtres bouliers rivalisent avec les calculettes pour des calculs assez complexes. Il y a eu autour du XVIe siècle un certain nombre d'inventions décisives, notamment conduites par Pascal, donc l'inventeur de la pascaline qui porte son nom, qui pour la petite histoire était une invention dont il espérait qu'elle le rendrait riche. Il n'avait que 17 ans, hein, mais il pensait qu'il avait raison, à vrai dire, qu'il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire, une machine à calculer automatique. Il en a vendu 6 ou 7, je crois, et il en reste peut-être 3 ou 4, dont une au Musée des Arts et Métiers. Et c'est une machine avec aussi des roues, qui est finalement très très simple à comprendre. Et quand on comprend comment fonctionne une machine à calculer automatique, mécanique, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne un ordinateur. Et ça a été un peu cette trajectoire que j'ai suivie et qui m'a amené à ce personnage de Charles Babbage. Alors, pour répondre à votre question aussi simplement que possible, La rupture qu'introduit Charles Babbage par rapport à la machine à calculer automatique, c'est que il a l'idée de faire une boucle, de boucler une machine à calculer sur elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que traditionnellement, enfin dans le fonctionnement de la machine de Pascal, vous rentrez les chiffres que vous voulez additionner sur un cadran qui ressemble beaucoup au cadran de téléphone qu'on avait avant. Donc ce que je dis ne s'adresse qu'aux gens qui ont plus de 30 ans, qui avaient donc ces cadrans circulaires dans lesquels on inscrivait le chiffre et puis ensuite le cadran se remettait en place en faisant un petit bruit de crécelle qui voulait dire qu'il n'inscrivait rien à cet instant. Bon, alors c'est pareil, vous inscrivez le chiffre 4, ça fait tourner une espèce de petite roue derrière, et puis ensuite le cadran revient en quelque sorte à sa place. Vous réinscrivez le chiffre 5 et vous avez l'addition 5 plus 4 qui s'opère automatiquement à l'écran. Il y avait un petit cadran qui permettait de voir le résultat apparaître. Quand on faisait des calculs de plus de 10, puisqu'on était en base 10, il y avait un système de retenue, de report de la retenue qui faisait basculer d'une roue à l'autre le résultat et on s'affichait donc en chiffres arabes dans ce cadran chiffres 11, 12, 13. Alors c'est un système très ingénieux donc qui améliore considérablement le système du boolier puisqu'il y a une sorte de prise en charge du calcul par la machine, mais il est qui quand même très rudimentaire puisqu'il faut à chaque fois inscrire comme on dirait aujourd'hui un input et puis regarder ensuite l'output. L'idée de Babbage, très, très ingénieuse, très bizarre, c'est de se dire que la machine pourrait avoir pour input son propre output. Voilà, pour le résumer le plus simplement possible, un ordinateur, c'est tout simplement une machine à calculer dont le résultat peut être réintroduit dans le calcul. Voilà. Et ça permet d'abord à Babbage de résoudre un problème technique. Hein, Babbage, c'est un ingénieur. Je vous avais dit que l'ordinateur est né au pays de l'utilitarisme. C'est un ingénieur qui vise à permettre d'améliorer un certain nombre de processus industriels et d'améliorer la compétitivité finalement de l'Angleterre en termes d'export, d'import, de croissance, etc. Bon, alors le problème de Babbage, c'est le calcul des marées. Les marées conditionnent la bonne réception des marchandises qui viennent en bateau en Angleterre, mais le calcul des marées est relativement complexe à faire. C'est un calcul de puissance. Qui est basé sur la Lune, sur plein de paramètres. Et alors, les marins avaient, et les industriels, donc par conséquent, des tables de marée qui étaient calculées à la main par des armées de calculateurs humains qui remplissaient pour chaque calcul de puissance, finalement, le résultat. Mais il y a beaucoup d'erreurs qui s'introduisaient dans ces manuels de marée et il y a beaucoup de naufrages. Alors, le problème de Babbage, c'est donc d'inventer une machine qui permettrait d'automatiser le calcul des marées. Le problème du calcul des marées, donc je l'ai dit, c'est que c'est des puissances. Et les puissances, en fait, une machine à calculer automatique telle que les dérivés des machines de Pascal existent, ne peuvent pas les produire. Une machine de Pascal, ça fait des additions. Éventuellement, grâce à une invention que Leibniz va apporter, un autre philosophe, qui s'appelle le cylindre de Leibniz, on va pouvoir faire des multiplications. Mais une puissance, c'est une sorte de multiplication incrémentielle. Hein. Il faut, comme je viens de le dire, remettre le résultat de la puissance pour ensuite la faire monter, hein, pour monter la puissance. Et donc, c'est comme ça que Babbage arrive à cette idée. Il arrive à cette idée, il produit cette machine qui a donc une particularité. Quand on peut la voir fonctionner au National Museum à Londres, c'est qu'elle est dotée d'une imprimante. Déjà, avec des caractères aplomb hein, et un bac à cire, parce que c'était vraiment l'obsession de Babbage que le résultat devait s'imprimer à la fin mécaniquement aussi, pour qu'il n'y ait pas de report par un œil humain, en quelque sorte, du résultat produit par la machine, et qu'on puisse ensuite tirer la feuille et la donner au commerçant qui avait besoin de connaître la marée du jour ou du lendemain. Donc voilà, c'est une histoire un peu complexe qui mêle plusieurs dimensions, mais qui permet en tout cas de s'approcher au plus près, et vraiment, quand je dis s'approcher, c'est-à-dire que ça n'a vraiment pas changé, c'est-à-dire que la machine de Turing, qui donc créé un siècle plus tard, fonctionne finalement exactement de la même manière. Alors, Turing est un théoricien des mathématiques, c'est encore une autre affaire qui commence et une autre voie d'entrée hein, à cette découverte. Mais fondamentalement, et encore aujourd'hui, un ordinateur est juste cette machine qui est bouclée sur elle-même. Et effectivement, pourquoi c'est une rupture très très importante, et pour le dire en un mot, je vous repasse la parole, c'est parce que eh bien, c'est la première machine qui fonctionne comme un organisme, en fait, hein. C'est l'opposition un peu canonique en philosophie entre mécanisme et organisme. Kant, notamment, s'est illustré dans la définition de cette grande opposition. Un mécanisme, précisément, a un input et un output. C'est-à-dire que, comme dit Kant, une montre ne fabrique pas des montres. Hein, on remonte une montre et elle donne l'heure. Eh bien, un ordinateur, non. Un ordinateur, c'est comme un organisme. Il a la capacité de réfléchir au sens optique, hein, de prendre une image et de la réintroduire dans son dispositif, un peu comme nous, grâce à un système de feedback, on est capable de voilà, regarder quelque chose, enregistrer l'information et la réintroduire dans notre processus mental. Et c'est ce qui fera que, bien des années plus tard, la métaphore entre l'ordinateur et l'humain sera extrêmement voilà, développée. D'ailleurs, je dis plus tard, mais dès l'époque de Babbage, les journaux titrent « L'homme qui a inventé la machine à penser ». Et l'idée que la pensée puisse être réductible à des processus informatiques, qui est un grand débat d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, en fait, naît dès la première découverte de ce type très particulier d'automatisme organique que Babbage découvre.
Alors, on va s'attarder un peu sur ce second moment, Marc Alizard, le moment d'Alan Turing. Je vous cite, si Babbage est un contemporain du monde industriel britannique de l'ère victorienne, Turing est un enfant de la logique formelle dont les Anglais sont devenus des spécialistes depuis Boole, Russell et David Hilbert. Et puis, vous écrivez que cette réinvention de l'ordinateur s'accompagne ainsi d'une toute nouvelle représentation du monde.
Oui, c'est pas le calcul des marées qui pose problème à Turing, ça c'est sûr. Là, on est effectivement dans une autre dimension. Alors, c'est celle de la logique formelle. Alors, la logique formelle, d'une certaine manière, n'est pas si loin malgré tout de l'utilitarisme. Il s'agit de mettre fin au débat philosophique et en particulier au caractère aporétique de ces débats en inventant un langage universel dénué d'ambiguïté. Ça, c'est ça le programme de la logique formelle. Il apparaît plutôt à Vienne d'ailleurs qu'à Londres à la fin du 19e siècle. Ce sont plutôt des Kantiens, des post-kantiens qui sont un peu fatigués de l'idéalisme allemand, des romantiques, des ambitions un peu totalisantes de la métaphysique dogmatique du 19e siècle et qui veulent revenir à un usage beaucoup plus pratique et beaucoup plus critique et clinique de la raison. Ça, c'est dans ce cadre-là, en fait, que se produit l'invention de l'ordinateur, mais un peu comme un raté, parce que de la même manière que Babbage est mise en chemin, en mise en route, en action par la crise de l'utilitarisme, hein, ce que j'appelais les naufrages justement de l'économie commerciale britannique, qui est limitée par ses moyens de calcul. C'est la crise de la logique formelle qui va mettre en mouvement toute cette bande de mathématiciens. Parce que assez vite, la logique formelle fait aussi naufrage à sa manière sur des gros concepts et le symbole, hein, l'incarnation de ce naufrage, enfin si on peut appeler ça comme ça un naufrage, c'est le théorème d'incomplétude de Kurt Gödel, logicien viennois, immense figure du XXe siècle, qui découvre, éprouve, démontre que la logique formelle sera toujours, pour toujours, inconsistante, voilà. Incomplète, inconsistante, qu'il y a au fond, au cœur de cet édifice mathématico-formel, un point d'obscurité qui fait écueil, hein, justement, sur, et la pensée doit s'échouer sur ce point. Et parce qu'il le démontre mathématiquement, il fait événement. Évidemment, c'est pas une proposition, pas un point de vue, c'est pas une idée que les mathématiques ne peuvent pas tout expliquer, enfin ce genre de choses, hein. C'est vraiment que mathématiquement, on tombe sur des paradoxes qui sont insolubles quand on s'attelle à vouloir faire système de la logique formelle. Mais le paradoxe, effectivement, c'est que la démonstration de Gödel emploie pour parvenir à ses fins un langage tout à fait nouveau, qui est en fait le langage prototype, hein, prototypique de l'informatique. Gödel montre que toute démonstration, en fait, est une sorte de séquence de pas déterminée dans un temps fini. Et que c'est parce que, en fait, il y a un certain nombre de démonstrations qui, sous une certaine forme, prennent un temps infini, que on peut postuler, prouver l'incomplétude de la logique. Et c'est ce qui va inspirer à Turing en particulier, à quelques autres aussi, cette idée que on peut mécaniser des démonstrations, on peut mécaniser une partie de la logique formelle. Et c'est cette idée d'une mécanisation de la pensée qui finalement va sortir de plus concret, bizarrement, de cette preuve d'incomplétude de la logique. Alors, c'est ce qui me fait penser qu'à la manière de la machine de Babbage, la machine de Turing est construite comme une boucle, c'est-à-dire elle est construite autour d'un trou. Hein, il y a un vide central. Quand on dit boucle, on dit vide. Eh ben, c'est pareil. Au milieu de l'ordinateur, il y a un vide qui est l'incomplétude, alors qu'il prend chez Turing une autre forme, une autre formulation qui est ce qu'il appelle le problème de l'arrêt. En gros, un ordinateur peut absolument tout faire, sauf se compter lui-même, en fait, se savoir lui-même. Il ne peut pas décider à l'avance de l'arrêt d'un programme qu'il exécute. Et ça, c'est une idée qui est fondatrice à la fois de sa puissance, parce qu'en fait, c'est ce qui lui donne son élan, c'est comme s'il tombait en quelque sorte, mais c'est aussi une pensée qui, pour nous aujourd'hui, est très libératrice, hein. C'est-à-dire que les prophètes de l'intelligence artificielle ou à l'inverse, les gens un peu inquiets de la toute-puissance que prennent les ordinateurs, ne doivent quand même jamais oublier que l'ordinateur est limité par ce théorème fondateur qui constitue finalement à la fois son être et son manque à être. Alors, je ne sais pas si on peut s'en féliciter, s'en réjouir. Il se trouve que, en fait, nous aussi, on est limité par cette incomplétude. Et ça, c'est encore peut-être, il viendra un autre débat, mais on retombe sur des choses que Kant précisément avait déjà dites à l'époque. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus nous-mêmes regarder nos propres processus mentaux en même temps qu'ils s'opèrent. C'est-à-dire qu'on peut les voir dans un scanner, un IRM, mais moi, en même temps que je vous parle, je ne me vois pas parler, je ne me vois pas. Il me faudrait un deuxième cerveau pour regarder mon premier cerveau en train de travailler. Et l'ordinateur est finalement exactement dans la même situation. Donc, on est au cœur d'un paradoxe qui va aussi nourrir cette pas cette mettre à cette comparaison très fructueuse entre l'organisme humain et l'organisme mécanique.
Et c'est par cette analogie entre organisme humain, cerveau et puis l'informatique, l'ordinateur, que vous en arrivez à former ce concept original qui vous appartient d'ontologie digitale, d'ontologie informatique. C'est ce qui fait le propre du contenu de votre livre, Marc Alizart. Donc là, c'est par aussi cette historique, en cherchant l'historique, en cherchant dans la philosophie, notamment du 19e siècle, que vous en arrivez à former ce concept d'ontologie digitale, en passant par Hegel notamment, puisque vous faites de Hegel, le premier philosophe à, en quelque sorte, pour aller vite, imaginer, en tout cas, penser cette ontologie informationnelle, en tout cas.
Oui, ontologie digitale, c'est presque un pléonasme, en fait. Si on réfléchit à la manière dont le mot ontologie est créé, fabriqué, hein, il est fabriqué de deux racines grecques, ontos, qui veut dire l'être, et logos, qui veut dire la pensée. C'est une science de l'être, mais c'est aussi une science de l'articulation entre l'être et la pensée. C'est la forme originale de la philosophie, en quelque sorte, depuis Parménide et depuis l'affirmation que être et pensée sont le même, qui est une de ces grandes phrases comme ça, sur lesquelles tous les philosophes sont amenés à réfléchir dans leur vie, et qui est débattue par Platon, Aristote, et effectivement jusqu'à Hegel, qui est un fil rouge de la pensée philosophique. Digital, c'est un anglicisme pour numérique, pour informationnel, et ça veut dire, ça veut dire un peu la même chose, en fait. Parce que l'information, c'est quoi, si ce n'est précisément de la pensée qui est engrainée dans de l'être. Ce qui est très frappant quand on s'intéresse aux ordinateurs, c'est que, et d'autant plus après un certain nombre de découvertes qui s'opèrent dans les années 50, dans le sillage de ce travail de Turing, de Babbage, c'est que de l'information, il y en a partout. La découverte de l'ADN dans les années 50 par Watson et Crick va être le premier coup de tonnerre comme ça qui va ouvrir le champ de l'informatique à l'être tout entier. Hein. C'est plus seulement dans des machines que des nombres sont concaténés, c'est dans notre propre sang, dans nos propres organes que un programme génétique s'écrit et détermine un certain nombre de nos traits. Un peu plus tard, dans les années 60-70, la mécanique quantique, une certaine réinterprétation de la mécanique quantique va aussi proposer un modèle informationnel de l'être. Et un cybernéticien qui s'appelait Warren McCulloch va avoir ce mot qui est assez frappant, hein, qui est de dire, écoute, en fait, quand plus on fait de la cybernétique, c'est-à-dire plus on s'intéresse à l'informatique, plus on se sent pré-socratique, plus on se sent proche des anciens grecs, plus on a l'impression qu'effectivement penser et être sont le même, que dans l'être il y a de la pensée, que l'être et l'articulation de la pensée et de l'être sont une sorte de noyau au cœur de notre être au monde, beaucoup plus en fait qu'elle ne fait de nous des cartésiens. Hein. C'est ce basculement que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir qu'au lieu que l'informatique fasse de nous des maîtres et des possesseurs de la nature, pour reprendre la phrase de Descartes, elle fait effectivement de nous plutôt des gens qui sont replongés dans une sorte de nature primitive, de nature ontologique, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'en cherchant si la philosophie avait traduit ce phénomène, ce sentiment que l'être est de la pensée, en dehors effectivement des pré-socratiques, je suis tombé sur cet Himalaya de la pensée qu'est Hegel et l'idéalisme allemand. Parce que si, là encore, si vous le prenez simplement à sa première intention, l'idéalisme allemand, comme son nom l'indique, est constitué, formé autour de la thèse que des idées sont au cœur du monde. Alors, c'est ce qui a fait dire à Marx qu'il fallait remettre l'idéalisme allemand sur ses pieds, que c'était pas les idées qui gouvernaient le monde, mais c'était la force productive, les conflits de classe, etc. Mais c'est pas du tout ce que Hegel veut dire. Hegel veut pas dire que le monde est fait d'idées, comme Shakespeare dit que notre vie est un rêve ou un songe. Je pense que Hegel anticipe beaucoup plus fondamentalement cette pensée des années de notre époque, hein, qui est que le monde est de l'information. C'est pas du tout la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a des programmes, justement, des algorithmes dans la nature, dans les choses, dans cette chaise, dans le micro dans lequel je parle. Hegel a cette phrase très étrange, il dit « toute chose est un syllogisme ». Qu'est-ce que ça veut dire toute chose est un syllogisme? On voit bien que toute chose est faite d'atomes, que toute chose nous résiste, toute chose a un poids, toute chose a éventuellement une capacité énergétique, mais en quoi c'est un syllogisme? Je pense que s'il avait dit toute chose est un programme, on comprendrait, ou toute chose est un algorithme, on comprendrait ça d'une manière très différente, mais les mots n'existent pas à l'époque de Hegel, le mot information va être conçu seulement 30 ans après Hegel. Par Boltzmann, Ludwig Boltzmann, qui est un thermodynamicien qui réfléchit à la structure des gaz et qui va produire, enfin, notamment plutôt travailler autour du concept d'entropie, de désordre. Et c'est uniquement aussi autour de Turing dans les années 30, mais via un ingénieur en télécommunication qui s'appelle Claude Shannon. Que le concept d'information va être vraiment développé et affiné et devenir un vrai concept scientifique. Voilà.
Et vous avez envie de remplacer le mot syllogisme par information. Et vous l'expliquez, c'est une belle explication. Le mot n'existe pas. Le mot information n'existait pas pour Hegel. Et du coup, vous lui faites dire, enfin, vous me faites comprendre qu'il aurait dû remplacer le mot syllogisme par information, parce que vous allez très très loin avec Hegel. Vous écrivez que comprendre que Hegel parle d'informatique, c'est comprendre et l'informatique et Hegel. Et du même coup, comprendre notre monde, le monde et la philosophie qui vient après. Oui, rien que ça.
Oui, j'ai dit que c'était un gros morceau, hein. Et non, non, mais je crois qu'effectivement, je fais partie d'abord des gens qui prennent la philosophie très au sérieux. C'est-à-dire, je pense que les philosophes disent des vraies choses qui ont un vrai impact sur le monde. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit un bavardage qui soit voué à être éternellement contesté, que la philosophie est un débat, une discussion où tous les points de vue sont ouverts, etc. Je comprends très bien qu'on puisse le croire. Et c'est aussi une tradition philosophique du débat et de la dialectique que de le mettre en place. Mais je pense que si l'informatique nous apprend quelque chose, malgré tout, c'est que la philosophie a une effectivité, au même titre que la physique nucléaire ou que l'atome se divisant libère de l'énergie, les concepts libèrent de l'énergie, et l'informatique en est la preuve quotidienne. Enfin, on pilote aujourd'hui des avions avec des ordinateurs, et quand on pilote des avions avec des ordinateurs, on les pilote avec de la pensée. Et on les pilote avec quoi? On les pilote finalement avec toute l'histoire de la métaphysique et toute l'histoire de l'ontologie précisément. C'est-à-dire, on les pilote avec du Parménide et du Aristote, on les pilote avec le traité des catégories et avec la science de la logique. Alors tout ça remouliné par Kurt Gödel et Turing, si vous voulez, mais encore une fois, comme la logique formelle et celle s'inscrit elle-même dans un débat avec le kantisme et avec l'hégélianisme, il y a absolument, je vois aucun problème finalement à dire que toute cette histoire-là nous permet de comprendre effectivement que lire Hegel, ça peut nous permettre effectivement de comprendre le monde.
Pour bien faire comprendre aux auditeurs, vous avez cette note à un moment donné. À ma connaissance, un seul philosophe s'est aventuré à faire de Hegel le père de l'informatique. Il s'agit de Jean-Clé Martin. Voilà, c'était pour situer que, bon, vous êtes assez minoritaire dans ce type de pensée autour d'Hegel, mais elle est vraiment intéressante et foisonnante. J'aimerais qu'on arrive à un autre philosophe, mathématicien également, c'est Alfred North Whitehead, qui est le co-auteur des Principia Mathematica avec Russell. Et vous écrivez que c'était le premier à avoir entrepris. Donc en même temps que Turing, ils étaient collègues, d'avoir entrepris de mettre des mots, et là cette fois il y a les mots, le mot information existe, hein, ils sont contemporains, de mettre des mots sur l'ontologie procédant de la découverte de l'informatique dans les années 1930. Pourquoi vous faites de Whitehead une telle figure?
Oui, Whitehead, c'est celui qui travaille avec Russell sur les Principia Mathematica, qui est donc au cœur de cette histoire de la logique formelle, qui est l'un des premiers témoins de la crise des mathématiques. Et lui, alors ça, c'est peut-être une réaction à cette crise, hein. Il n'embraye pas le pas de Turing, il va pas devenir informaticien, il va devenir philosophe et il va quitter, hein, d'ailleurs tout ce monde-là pour écrire de la philosophie. Est-ce qu'il a le pressentiment, la prescience qu'effectivement quelque chose a craqué ou bougé dans la philosophie avec l'informatique, ou avec en tout cas la crise de la logique formelle? Certainement. Ce qui est intéressant, c'est que sa philosophie prend la forme d'une philosophie du process, hein, ce qu'il appelle le process. Alors, c'est pas complètement nouveau en philosophie de parler de process, de processus. Aristote est un grand philosophe processuel, mais effectivement, comme vous le dites, on est dans une autre époque. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a un lien avec ce que Turing va fabriquer lui-même. Alors, un peu plus tard, dans les années 50, Turing a cette particularité de commencer comme mathématicien, informaticien, et puis de finir sa vie comme biologiste. Enfin, comme il est très passionné par les questions de diffusion, de process, justement. Notamment en ce qui concerne un problème qui le préoccupe beaucoup, enfin qui l'occupe beaucoup, c'est la diffusion et la distribution des tâches, par exemple, sur un pelage de léopard, de chat, de tigre, et puis des formes végétales qui sont récurrentes ou des tâches sur les coquillages. Et Turing a l'intuition que des processus itératifs simples, et donc des processus informatiques, donc input-output, comme je disais tout à l'heure, sont capables, itératifs et récursifs, donc bouclés, sont capables d'expliquer ces diffusions de tâches. Et il va proposer un modèle, un modèle théorique, qui est encore aujourd'hui tout à fait en fonctionnement, et qui permet, qui est une des premières applications de l'informatique à des phénomènes biologiques, justement. Et Whitehead a vraiment tout à fait le même type de pensée dans sa métaphysique, son ontologie du process, et aussi une ontologie où tout est itération et récursivité, comme ça, et les choses se forment à partir de processus cumulatifs qui se prennent eux-mêmes en boucle et qui donnent lieu à un monde. Et chez Whitehead, je ne sais pas si Whitehead connaissait bien Hegel, mais il y a une proximité qui me paraît, à mon avis, assez forte, puisque ça culmine en théologie quand même, Whitehead, hein. Il y a une théologie. Dieu aussi est une sorte de, non pas de grand horloger qui remonte une montre, comme dans la dogmatique du XVIIe siècle, mais une sorte d'informaticien qui est au cœur de ce procès, de cette transformation permanente, cette métamorphose de toute chose sous le coup de ces itérations numériques. Il y a un autre personnage dont je parle moins là, dans ce livre, c'est von Neumann, qui est aussi quelqu'un de très important dans l'architecture des premiers ordinateurs. Alors, von Neumann, lui, il va inventer un truc qui s'appelle l'automate cellulaire, qui est un fascinant objet de pensée, qui est un ordinateur inversé, en quelque sorte, qui fabrique à partir d'itérations simples aussi des pixels qui s'accumulent, se composent et fabriquent des formes aussi tout à fait extraordinaires. Alors, une des versions les plus connues de l'automate cellulaire de von Neumann, c'est le jeu de la vie de John Conway, le mathématicien, qui a inventé dans les années 60 un programme très simple qui donne vraiment l'impression d'assister en direct à la naissance de formes de vie, comme des petits virus, des amibes, sur son ordinateur. Et c'est un jeu qui est à la fois très simple et qui est suffisamment complexe pour exister encore aujourd'hui, puisque c'est fait que quelques années à peine que quelqu'un a vraiment fabriqué la première forme de vie, on pourrait dire artificielle, qui est une sorte de virus autoréplicant grâce aux règles élémentaires du jeu de la vie de John Conway. Donc, automate cellulaire, concept hegelien, process de Whitehead, phénomène de diffusion de Turing, ça me paraît effectivement définir une constellation de philosophèmes dans lesquels, peut-être on va en parler maintenant, on retrouve beaucoup de tics de la philosophie contemporaine. Hein,
Et effectivement, parce que tout ce dont vous venez de parler, Marc Alizard, c'était avant que l'ordinateur individuel, le PC, n'existe. Et là, on arrive avec la philosophie postmoderne, puisqu'ils sont contemporains de l'élaboration technique de l'ordinateur. Et vous écrivez que le postmodernisme, c'est ce qui a offert à l'informatique les moyens d'être vraiment organique, vivante, fragile, et donc potentiellement humaine. Parce que ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que, bien entendu, il y a une concomitance entre les concepts philosophiques, l'invention de la pensée, et puis l'invention technique. Ça va de pair, le vocabulaire, mais aussi l'ingénierie.
Oui, depuis le boulier, encore une fois, jusqu'aux machines de Pascal, jusqu'à ce qu'on va appeler la deuxième cybernétique dont je vais parler maintenant. Effectivement, l'histoire des techniques qui sont engagées et sont engagées parce qu'elles sont engagées dans la même histoire que l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'articulation de la pensée et de l'être, est inséparable. Et il n'y a de bonne philosophie que de philosophie informée par les techniques et réciproquement, j'ai envie de dire. Alors, ce ne sont plus des philosophes qui inventent les machines à calculer ou des ordinateurs, mais Parfois, ce sont des ingénieurs qui donnent beaucoup à penser, par contre, aux philosophes, qui font parfois de meilleurs philosophes que les philosophes. Il y a un grand malentendu sur le postmodernisme. Le postmodernisme, aujourd'hui, pour nous, c'est un perspectivisme subjectif, une sorte de romantisme, en fait, dans une nouvelle version, une affirmation du moi, une sorte de protestation du moi contre les institutions, contre le pouvoir, contre la vérité. Bon. C'est pas du tout ça, dans sa première formulation. Le postmodernisme, c'est bon, d'abord une réflexion très profonde sur l'informatique, et ça c'est quelque chose qu'on ignore absolument, qui vient d'où? Qui vient du structuralisme. Hein, tous les postmodernes sont en fait des gens qui sont formés par le structuralisme, qu'on appelle aussi parfois les philosophies de la différence, les philosophies post-structuralistes, dans lesquelles s'entend à la fois qu'elles viennent après, qu'elles viennent contre, mais qu'elles viennent aussi avec. Le structuralisme, c'est une pensée qui est complètement ancrée dans l'époque, dans les années 60, hein, cybernétique. Hein. Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui connaît très bien Norbert Wiener, qui assiste aux colloques autour de la cybernétique. Jacques Lacan, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la cybernétique, qui a un modèle informationnel de l'inconscient, auquel il oppose au modèle énergétique freudien. Donc ça, c'est des débats qui sont très connus à l'époque, qui ont un peu disparu, avec disons, bah oui, les années 70, mais peut-être plus encore les années 80, et des gens comme Derrida ou Deleuze, beaucoup plus encore Lyotard, sont des gens qui parlent volontiers d'informatique. Derrida, dans de la grammatologie, explique hein, que ça, enfin, dans les premières pages que ça va être un débat avec Wiener, que ça va être un débat sur la cybernétique. Donc en fait un débat avec le structuralisme derrière, hein, évidemment. Enfin, ça va ensemble. Hein. C'est-à-dire c'est un débat avec le systémisme, avec la pensée systémique que le structuralisme est, comme la cybernétique. Deleuze explique aussi qu'il est en débat avec l'informatique, qu'il n'est pas d'accord, mais enfin que c'est quand même le point de départ aussi d'une réflexion pour lui. Et Lyotard, donc je le disais, Lyotard c'est quelqu'un qui va aux États-Unis, qui découvre ARPANET, donc l'ancêtre d'Internet dans les années 70. Et comme vous le disiez, hein, il n'y a pas d'ordinateur personnel, enfin on est sur des c'est assez fascinant de penser que Lyotard, qui va écrire La condition postmoderne, je crois en 78 ou 79, qui est un rapport sur le savoir à l'époque des sociétés informatisées. Ça, c'est le titre, le sous-titre de La condition postmoderne. Rapport sur le savoir à l'époque des sociétés informatisées. Bon, va développer des concepts qui aujourd'hui sont encore opérants, notamment des concepts de réseau, de partage d'informations, quasiment de blockchain. Enfin, c'est vraiment c'est très fascinant. Alors bon, ceci étant dit, donc. Sont des gens qui sont frustrés par une certaine limite. Hein. La limite, c'est précisément l'itération, la récursivité, et d'une certaine manière, plus de manière plus centrale, la question de l'incomplétude. C'est-à-dire que le débat qu'on a aujourd'hui sur les machines peuvent-elles être intelligentes, peuvent-elles être sensibles, peuvent-elles remplacer l'homme, sont des débats, je l'ai dit, qui commencent avec Babbage en 1830, mais finalement qui sont presque à leur acmé dans les années 60. Il y a des utopies autour des ordinateurs qui pourraient remplacer les hommes. Il y a un techno-hippisme qui se développe déjà vers la Silicon Valley. Et puis, bah, il y a ces philosophes qui pensent que c'est peut-être pas si simple, que en fait c'est un modèle très très mécaniste, ce qui reste encore très mécaniste finalement de conception de la pensée, très limité. Et alors dans le milieu de l'informatique, on essaye de sortir de ces limites qui ont été très vite aperçues du modèle cybernétique, un peu naïf finalement, d'application de l'informatique aux processus biologiques, aux processus mentaux. Bon, typiquement, quelque chose qui retient beaucoup Deleuze, par exemple, c'est les découvertes qui sont dans la biologie sur les limites du modèle de l'ADN. Dans les années 70, on découvre que, en fait, oui, il y a un programme, mais ce programme ne commande pas tout. Il y a des phénomènes chaotiques qui sont extrêmement importants, donc de l'aléatoire, qui conditionnent presque autant le vivant que le programme. Hein, et ça, il faut en rendre raison, enfin, ou rendre raison de ce qui n'a pas de raison, pour le coup, puisque justement, on ne peut pas l'itérer, on ne peut pas en faire une itération. C'est dans le hasard et la nécessité de mono que se dit cette pensée profonde sur le hasard qui va beaucoup frapper Deleuze, il le cite. On le trouve aussi chez Simondon. Simondon est chimiste et Simondon est aussi cybernéticien, mais à ce double titre, il voit assez vite, il met assez vite le doigt sur la limite du modèle de la cristallisation, par exemple, par itération. Il y a aussi des phénomènes que Deleuze va appeler les précurseurs sombres, qui sont des phénomènes de disparition, de saut ou de synthèse disjonctive. Hein, ce sont des concepts très très importants chez Deleuze et on ne peut pas vraiment les comprendre si on ne les rattache pas à leur, disons, à leur contexte, à la fois structural, mais en fait plus encore cybernétique ou informatique. Bon, je parlais de deuxième cybernétique. Oui, ce sont dans leur réflexion sur les limites de l'informatique des gens qui rencontrent des informaticiens, hein, parce que les informaticiens sont aux premières loges en fait de ce problème. Ils sont en train d'essayer d'élaborer des programmes pour conduire des avions, je le disais tout à l'heure, qui sont pas performants parce que le modèle est effectivement trop naïf. Alors la deuxième cybernétique, c'est une cybernétique qui va tenter d'introduire justement du chaos, du bruit dans l'informatique. On va beaucoup parler à l'époque, c'est par exemple Isabelle Stengers qui est spécialiste de Whitehead, qui va travailler avec Prigogine sur un livre qui va faire sensation, hein, sur les structures dissipatives, les structures en essaim. C'est-à-dire, ça reste quand même, ça reste très inspiré par la biologie, hein, mais c'est une autre biologie, c'est une biologie collective, une biologie beaucoup plus désordonnée, dont on va s'apercevoir qu'il y a des formes d'organisation qui naissent spontanément à partir de désordre. Ça va fasciner beaucoup dans les années 60-70 ces philosophes postmodernes. Et le postmodernisme, au fond, c'est vraiment plus ça. C'est pas une espèce d'éloge du désordre, hein, ou du spontanéisme. C'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt l'idée que dans le désordre naissent spontanément des formes d'ordre qui sont parfois plus performantes que des formes d'ordre qui pourraient avoir été imposées ex nihilo à des systèmes. Et ben il se trouve que c'est aussi une idée que Turing a eue, puisque Turing est un génie universel, malheureusement trop tôt disparu. Et Turing, dans les années 30, fin des années 30, en 39, écrit un papier qui est beaucoup moins connu que son papier fondateur sur la machine de Turing, qui est un papier justement sur ce qu'il appelle l'opposition entre l'intuition et l'ingéniosité. En gros, pour revenir au théorème de Gödel, il dit, bon voilà, on sait très très bien maintenant mécaniser la pensée de manière à l'intérieur d'un système d'axiomes, et c'est ce qu'il appelle l'ingéniosité. On sait aussi, de manière certaine, grâce à Gödel, que les mathématiques ne sont pas réductibles à l'ingéniosité. Il y a aussi des sauts, donc des sauts qui sont des sauts d'intuition. Les mathématiciens, vous savez, ils voient les résultats, hein. Ils n'ont pas besoin de passer par toutes les étapes laborieuses de l'ordinateur. Ils voient le résultat. Et donc, ils ont cette intuition. Et ils peuvent, à ce titre, poser des axiomes. C'est comme s'ils sortaient du système, pour le coup, qu'ils se voyaient penser, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, et puis que décidaient, voilà, de faire un acte qui... Alors Turing se pose la question de savoir si un ordinateur peut faire un tel acte aussi d'intuition. Et la réponse de Turing, comme toujours, c'est oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maximiser à l'infini l'ingéniosité. Alors comment on maximise à l'infini l'ingéniosité? On ne peut pas vraiment, parce que l'infini n'est pas un concept physique, c'est un concept théorique, mais physiquement, les quantités d'énergie sont limitées, la puissance est limitée, la mémoire est limitée. Alors il appelle ça un oracle. Il dit on va construire une machine qui aura un oracle, et cet oracle ce sera une boîte noire. Et cette boîte noire, elle sera chargée de faire des sauts de temps en temps pour produire et aider l'ordinateur à avancer au-delà de sa capacité itérative. Et alors, il réfléchit à ce qu'il pourrait y avoir dans cette boîte noire. Et alors, par soustraction, enfin il apparaît que la seule chose qu'il puisse y avoir, puisque c'est une chose qui n'est pas mécanisable, puisque si elle était mécanisable, on pourrait en faire un ordinateur, ce ne serait donc pas un oracle, ben c'est le bruit. C'est le chaos. Et alors il a cette idée complètement incroyable dans les ans 45, quand à la fin de la guerre, on commence à construire le premier ordinateur, le Mark I à Manchester. c'est d'amener un bâton de radium dans le labo où l'ordinateur fonctionne. Alors les ingénieurs vont lui dire non, t'es gentil, mais on va s'arrêter là parce que c'est radioactif le radium. Mais l'idée de Turing, c'est vraiment de dire bah, si on introduisait une matière comme ça qui fabrique du bruit, hein, qui est du bruit magnétique, et qui dérangerait en quelque sorte les conduits électriques qui fabriquent de la. Du calcul, eh ben peut-être qu'on tiendrait là une espèce d'oracle. Alors bon, voilà. Cette histoire-là, c'est celle qu'on retrouve dans les années 60 et 70. Deleuze, c'est quelqu'un, à mon avis, il ne parle jamais de Turing pour plein de raisons qui sont liées à son entourage aussi, notamment les mathématiciens qui travaillent avec Gilles Châtelet, qui est très anti-informatique. Il en parle rarement, mais c'est bien dommage parce que je pense que le précurseur sombre, ça aurait pu s'appeler tout à fait l'oracle aussi. Alors après, je dis ça, il y a un passage de Deleuze que j'ai découvert après avoir écrit le livre qui est extraordinaire, je connaissais pas du tout, qui est dans un de ses tout derniers livres, en 86, un livre sur Foucault. C'est la dernière page quasiment du Foucault, dans lequel il annonce le post-humain dans des termes extrêmement proches de la pensée contemporaine informatique, hein, cyberpunk, on pourrait dire, hein. Bon, vous savez que Foucault se pose la question de la mort de l'homme, donc le débat un peu des années 80, c'est qu'est-ce qu'il y a après l'homme, si l'homme meurt. Et la réponse de Deleuze, c'est peut-être, c'est dit-il, un homme en silicium, enfin un homme qui sera composé des forces dont le carbone aura été remplacé par le silicium. C'est clairement un appel du pied à l'informatique, comme quoi c'est quelque chose qu'il a quand même jamais perdu complètement de vue.
Oui, d'autant plus que les concepts de Deleuze sont très très féconds pour tout ce qui peut se passer actuellement. Enfin, ils sont mille fois utilisés. On comprend mieux, à vous écouter, Marc Alizart, l'enjeu que vous fixiez dans votre introduction et l'ambition, comme quoi l'informatique n'est jamais en effet que l'aboutissement de tout le travail de formalisation de la pensée que la philosophie a entrepris dès l'aube de son histoire. Effectivement. Dans votre propre pratique philosophique, cette idée d'ontologie digitale provient notamment de cette volonté, dites-vous, de faire une ontologie à l'écoute de ce que la science a à nous dire de la matière. Je trouve la formule très très belle.
Ben oui, il me semble qu'il faut pas qu'on prenne trop de retard quand même sur ce qui se passe dans l'informatique aujourd'hui et qu'à défaut de bien maîtriser cette histoire et d'avoir cru que même elle s'était interrompue dans les années 70 avec la pensée postmoderne, ben on risque de rater un train quand même parce que si effectivement la cybernétique a un peu bégayé jusqu'à présent dans sa promesse de produire de l'intelligence artificielle, de résoudre les problèmes du vivant, d'expliquer l'ADN, l'ARN, les traits génétiques et l'évolution, bah c'est plus tout à fait vrai. Là, ces dernières années, on a vu des sauts considérables d'effectuer. Les réseaux neuronaux sont quand même qui ont été inventés par un Français. D'ailleurs, Yann LeCun sont en train de transformer complètement l'intelligence artificielle. Les progrès peuvent même être constatés par tout un chacun. Il suffit d'utiliser Google Translate aujourd'hui et de comparer ce que ça donnait il y a 2 ans pour s'apercevoir que les choses ont une vitesse folle. Il y a aujourd'hui toute une branche de la physique qui s'appelle la physique digitale, hein, et bon, le concept d'ontologie digitale, je l'ai construit beaucoup autour de cet anglicisme, la physique digitale, qui est à la croisée de l'informatique, de la mécanique quantique et de la cosmologie. Elle est composée de gens qui prennent vraiment très très au sérieux cette idée que l'univers est un ordinateur et qui sont aujourd'hui capables de vous écrire des livres pour vous dire que combien de mémoire cet ordinateur a, enfin à quelle vitesse l'univers pense. Enfin, c'est des choses qui sont, on a l'impression de lire Plotin, mais Plotin version 2.0, enfin Plotin avec un vrai fondement scientifique derrière. Et ça, le risque de la philosophie à ne pas s'intéresser à ces sujets, c'est de devenir elle-même une sorte de plotinisme à l'ancienne, c'est-à-dire à parler, à poétiser sur le monde, alors que les physiciens aujourd'hui nous permettent de concevoir presque une philosophie en acte. Enfin, je trouve qu'on n'a jamais été aussi proche, en fait, physicien, philosophe, on n'a jamais été aussi proche dans nos pratiques et dans nos sujets d'intérêt. On est tous maintenant intéressés à la même chose, c'est-à-dire à l'articulation de la pensée et de l'être. C'est vraiment pas le moment pour les philosophes de se retirer du jeu en disant non, 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 nous on est ailleurs. C'est ce qu'a fait Heidegger notamment, avec lequel je me distance, en disant bah, finalement tout ce qui est de l'ordre du mécanisable, du mathématisable ou de la physique, c'est quelque chose qui doit par principe pas intéresser le philosophe, puisque le philosophe doit penser la pensée ou penser l'être qui de toute façon n'est pas un étant. Enfin, tout ça, c'est, je le conçois, hein, c'est loin d'être inintéressant et ridicule, hein, c'est pas le sujet, mais c'est juste qu'il faut comprendre que les mathématiciens et les physiciens, ils n'en sont plus là non plus eux. Eux-mêmes pensent la pensée, et eux-mêmes sont dans un être qui n'est pas un étant, et quand il suffit de s'intéresser à la mécanique quantique aujourd'hui et à l'informatique quantique pour comprendre quel genre de machine absolument insensée on est en train d'inventer. La densité des concepts qui sont mis en jeu, qui sont, alors ça c'est aussi quelque chose qui manque à mon avis à Deleuze, là pour le coup qui lui manque sévèrement, c'est la mécanique quantique. Je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, de référence à la mécanique quantique chez Deleuze. Or l'idée que l'indéterminisme est au cœur du monde, c'est vraiment une idée quantique. L'idée de la virtualité par opposition à l'actualité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la mécanique quantique. Et l'idée aujourd'hui on fabrique des ordinateurs comme avec des nœuds quantiques, avec des Moi, je lis ça. Je suis pas un physicien. Je suis pas suffisamment versé dans la physique pour pouvoir, certainement comprendre toutes les subtilités. Donc, peut-être que je lis ça aussi moi-même un peu comme de la poésie, mais je trouve que c'est vraiment de la meilleure poésie du qu'on puisse lire aujourd'hui.
J'aimerais que nous terminions cette interview, Marc Alizart, avec cette phrase qui place bien les enjeux de ce que vous venez juste d'énoncer, sur voici ce que produit en nous l'informatique, en fait. L'informatique produit des choses en nous. Dès lors que le monde de l'homme se peuple de machines à traiter de l'information, sa conscience de soi accède à un nouveau stade d'universalité. Elle est vraiment la conscience de soi de l'univers.
Oui, c'est une idée qu'on trouve chez Hegel et qui est très mystérieuse, hein, quand il dit que on n'a jamais conscience de soi, c'est l'univers qui a conscience de lui en nous. C'est une phrase qui m'a toujours stupéfait, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, à travers l'informatique, comment on pouvait la penser. L'informatique est la source d'un holisme qu'on retrouve dans la culture cyberpunk, de Ghost in the Shell à d'autres formes de science-fiction contemporaine, mais qui sont pas risibles. Enfin, effectivement, à partir du moment où vous pensez que l'être est de la pensée, depuis la matière élémentaire quantique jusqu'au phénomène du vivant, jusqu'aux sociétés humaines, tout d'un coup, le un en tout qui était la devise des romantiques, Enkaipan, qui était emprunté à Héraclite, prend un sens, hein, et vraiment en tout. On est rassemblé dans un processus universel, unique, d'auto-formation de soi à partir de bruit qu'on appelle l'univers. Et cet univers a pour destination, alors peut-être pas pour but, mais en tout cas pour destination, de se penser comme étant de la pensée. C'est dans la mesure où l'être est de la pensée, il est assez naturel qu'effectivement à un certain moment de son développement, eh ben, la conscience de soi fasse partie de l'être, et que l'être soit conscience de soi. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire du hegelianisme, c'est la troisième partie de cette encyclopédie des sciences qui est composée pour la première de la logique, de la deuxième de la nature et la troisième de l'esprit. C'est quoi l'esprit? Et c'est même quoi l'esprit dans la religion? C'est quoi l'esprit saint? C'est quoi la troisième personne de Dieu qui apparaît? Il y a beaucoup de livres sur Dieu le Père et beaucoup de livres sur Dieu le Fils. Il y a très peu de livres sur l'esprit, mais parce que c'est presque trop simple. Mais l'esprit, c'est la conscience de soi. La conscience de soi est la forme la plus haute, la plus dense de l'être. Et à travers l'ordinateur, à travers l'informatique, c'est un monde de la conscience de soi qui est en train de se développer. On est en train de donner conscience de soi aux objets, on est en train de donner conscience de soi à l'inanimé. Donc, c'est vrai que c'est un peu planant. La fin d'Informatique Céleste, je me suis autorisé à être un peu plus mystique, mais je trouve que c'est nécessaire. On a besoin de s'autoriser ça parce que on vit dans un monde où finalement on est quand même bombardé de choses très réactionnaires, très nihilistes, qui invitent finalement à développer en nous plutôt des passions tristes, des passions de ressentiment. Et on peut comprendre pourquoi. Je veux dire, le monde est assez triste, assez dur, la planète va pas bien. Mais je me suis rappelé de cette phrase de Deleuze aussi qui dit on peut pas changer le monde. Si d'abord on ne croit pas au monde, or on ne croit plus au monde, on croit qu'on vit sur une sorte de petite planète caillouteuse qui dérive dans l'espace. Ça, c'est pas un monde. Croire au monde, c'est vraiment croire qu'on fait partie d'un tout qui se développe. Et c'était vraiment une idée de Deleuze aussi. L'univocité de l'être, c'est cette idée que l'être se dit d'une seule manière, pour tous. Et donc il fait monde, on fait monde, on est dans un cosmos dont les formes se répètent et nous interpellent comme étant les nôtres. Voilà, donc je trouve que c'est pas un luxe en fait. Même si c'est paradoxalement à travers l'informatique, c'est-à-dire à travers ce qui est de plus loin de nous, de plus déshumanisant à certains égards, souvent la manière dont on s'imagine l'informatique, de plus abstrait, de plus immatériel. Et ben si c'est moi, en tout cas, dans ma vie de philosophe et dans ma vie même personnelle, d'individu, de citoyen, c'est en m'intéressant à l'informatique que je me suis intéressé de nouveau à la nature, et que je me suis intéressé peut-être pour la première fois à la nature. Et que la nature est devenue pour moi quasiment une personne qui finalement accède à travers moi à la conscience. Moi, c'est le cheminement qu'Informatique Céleste m'a permis de faire. Et c'est un livre qui a, à ce titre, marqué chez moi une rupture et un moment important.
Merci, Marc-Alisa.